Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 17-19, le magazine, c'est Leïla Djebbour. Je suis ravie de vous retrouver dans votre rendez-vous de l'actualité. Deux heures de reportage, d'analyse et de rendez-vous avec les journalistes de la rédaction qui ont analysé pour vous toute l'actualité. Et au programme, les reportages avec le reportage du jour pour commencer. Ismaël Mimouni s'intéresse à l'essor du e-commerce en Algérie, un secteur porté par de jeunes entrepreneurs et en pleine transformation. Et pour la première fois en Algérie, la greffe de poumon se prépare face à l'augmentation des insuffisances respiratoires. Les autorités sanitaires s'appuient sur l'expertise du professeur Souilamas, chirurgien thoracique ayant réalisé plus de 150 greffes. Et nous suivrons l'essentiel de l'actualité économique en compagnie de Nabila Houssine qui abordera la loi de finances 2026 promulguée pour définir le cadre macroéconomique, budgétaire et fiscal de l'État. Et dans Zoom sur le monde de l'actualité internationale, Lies Terrini reviendra sur la crise au Soudan depuis deux ans. Depuis plus de deux ans, le pays est plongé dans une guerre d'une rare violence avec des massacres récents à El Fasher et au Kordofan. Et nous retrouverons Salim Brahimi en deuxième partie de ce magazine pour revenir sur le dernier jour du 11e Festival National de Musique Andalouse, Sanaa. Cet événement propose chaque jour des rencontres et des débats à l'Institut National Supérieur de Musique. Tout ça, c'est dans le magazine, c'est en votre compagnie et c'est jusqu'à 19h. On commence tout de suite par le reportage du jour.
Le reportage du jour.
Et grâce à l'engagement et la feuille de route entamée par les pouvoirs publics dans le domaine du e-commerce, le e-commerce s'impose progressivement en Algérie. Porté par l'énergie de jeunes entrepreneurs, il transforme les habitudes de vente et œuvre pour de nouvelles perspectives économiques sur le terrain, immersion dans un secteur en plein essor avec Smaïl Mimouni.
Le e-commerce se développe progressivement en Algérie, un secteur porté par une nouvelle génération d'entrepreneurs qui misent sur le numérique pour créer leur activité. Marketing digital, vente en ligne, formation sur le terrain, les initiatives se multiplient et les opportunités s'accentuent. Nazim Nouaïl, ingénieur et spécialiste en marketing, est co-gérant de l'entreprise RG360 spécialisée dans le e-commerce.
Par rapport à la réglementation, on est très strict. L'État et le ministère, ils sont en train de bien encadrer le e-commerce, tout ce qui se passe en ligne. Mais on a fait une évolution de 100% à 120% depuis 2023. En deux années, il y a 100% à 120% de nouveaux e-commerçants qui rentrent dans le domaine. C'est le business en ligne, c'est le domaine du futur. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'Internet et du coup, ça ouvre beaucoup d'opportunités pour ces jeunes-là. De nos jours, 2025-2026, on est obligé d'être à jour pour travailler avec ce qui se passe directement avec le monde et ne pas être en retard comme au préalable.
Ahlam Oukal, productrice de marque de vêtements locales, a choisi le e-commerce comme principal canal de vente. Sans boutique physique et grâce aux réseaux sociaux et aux ventes en ligne, ces produits sont commandés partout en Algérie.
J'ai une marque de vêtements. Bon, je travaille dans le e-commerce. J'ai commencé ma marque à l'âge de 18 ans. Ça fait 4 ans que je travaille dans le e-commerce. Et alhamdoulilah, mon business fonctionne bien. Et le e-commerce, c'est un grand avantage pour commencer avec un petit budget et commencer le business. Mon budget au début, c'était à 5 millions. Maintenant, par mois, je fais de 40 millions, 50 millions de bénéfices nets.
Aujourd'hui, aucune marque ne peut se développer sans une présence en ligne. Hicham Boualak, gérant de la boîte Dreaming, spécialisée en marketing digital et dans l'accompagnement des jeunes entrepreneurs en e-commerce.
Je travaille beaucoup plus avec les agences qui font du service. On a des clients aussi qui ont des ventes de billets d'avion, comme des agences de voyage, des produits, exactement. Là, on fait de la publicité pour ces gens-là. On a des contrats. On a plein de clients et différentes thématiques, différents thèmes, différentes niches. Un portefeuille de clients avec une quarantaine de personnes. J'ai commencé en 2017.
Pour mieux vendre sur Internet, les spécialistes recommandent aux jeunes entrepreneurs d'organiser leur business et de se baser sur le long terme. Ismaïl Haddari, formateur spécialiste en e-commerce.
Pour l'optimisation du budget. Dépenser son budget pour gagner de la l'argent. Donc c'est le ROI, le retour sur investissement. Donc il faudrait comprendre le marché, l'analyser, le combiner avec des techniques. Aujourd'hui, si les jeunes ou bien même les start-up, les grandes entreprises, les petits e-commerçants, tout le monde doit utiliser le digital marketing pour avancer.
Le processus de la vente en ligne est simple. Conquérir le marché passe par une force de vente intelligente, un circuit de commercialisation optimisé, bénéfique et aussi sécurisé. Nazim Nouaïl, ingénieur spécialiste en marketing.
Le processus d'une vente en ligne, il est très simple. On a un site internet qui est notre magasin sur internet. On met nos produits dedans. On essaie de faire de la publicité sur les différentes régies publicitaires, que ce soit les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok, tout ce qui s'ensuit. On a des publicités qui sortent aux consommateurs. Les consommateurs, s'ils sont intéressés, ils cliquent dessus, ils passent au site internet, ils passent leur commande. On travaille par le système du cash on delivery ou le paiement à la livraison. On commande notre produit, on le reçoit, on le voit, après on paye à la livraison. Les garanties, chaque vendeur est suivi minutieusement par les autorités, surtout de nos jours avec la cybersécurité et tout. Les consommateurs peuvent porter plainte sur n'importe quelle commande qui est erronée.
Porté par l'innovation et l'engagement de la jeunesse, le e-commerce s'impose peu à peu comme une véritable opportunité de développement économique en Algérie.
C'était le reportage du jour avec Smaïl Mimouni. On vous retrouve dans quelques instants pour le reste de l'actualité. On vous accompagne en musique.
شوف ظلام في فريقي ساكن في الغابة المنسية طوب حجر والويدان قصتها مخفية صرار في كل مكان حتى في المشية سحرية إيجال الله شهدوا المكان سلبت عقلي وما بيا رموسها مخفية النظرة تحكي للغاز والضحكة تشفي البلية حروف جمال فيه صرار صراره في الدنيا مخفية من النظرة الأولى تولي حيران بين الحب والبلية ماهيش بنت المدينة خيط الروح في جبينها مرسوم يشوفوا غير اللي عشق فيها ضلها مرموشها تلمع سر ربي اللي خالقوا فيها قلبي بزينها تمتع كلام الحلوش عالي واتيها
La suite du magazine avec l'actualité économique en compagnie de Nabila Hussein.
Économie.
Et la loi de finances 2026 est promulguée. Elle fixe le cadre macroéconomique, budgétaire et fiscal de l'État pour l'année à venir.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé la loi de finances 2026. Ce texte définit les équilibres macroéconomiques, les priorités budgétaires et les leviers fiscaux de l'État. Il encadre la politique de dépenses publiques, la mobilisation des recettes et l'orientation de l'investissement. La loi de finances 2026 vise à soutenir la croissance, renforcer l'investissement productif et poursuivre la diversification économique tout en préservant les équilibres budgétaires.
Et le Conseil des ministres a acté une revalorisation des pensions de retraite dans le cadre des mesures de renforcement du pouvoir d'achat et de la politique sociale pour 2026.
Lors de sa réunion, le Conseil des ministres a approuvé une revalorisation des pensions de retraite. Les mesures prévoient une hausse de 10% pour les retraités percevant jusqu'à 20 000 dinars et de 5% pour ceux dont la pension est supérieure à ce seuil sur instruction du président de la République. Cette décision s'inscrit dans la continuité des ajustements sociaux déjà entamés, notamment l'augmentation du salaire national minimum garanti et de l'allocation chômage visant à soutenir les revenus des ménages. Les pouvoirs publics soulignent que cette revalorisation doit être compatible avec la soutenabilité financière du système et les capacités budgétaires de l'État.
Les infrastructures demeurent un levier central de compétitivité et de croissance économique.
Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de Basel, Khdar Djellaoui, a supervisé l'avancement de plusieurs projets structurants. Ces investissements publics concernent principalement les réseaux de transport et les infrastructures de base. Ils visent à améliorer la connectivité, fluidifier la logistique et réduire les coûts économiques liés au transport. À moyen terme, ces projets contribuent à l'attractivité des territoires, à la stimulation de l'investissement et à la création de valeur ajoutée.
Et l'Algérie poursuit sa stratégie d'attractivité des investissements directs étrangers.
Une délégation de 40 entreprises indiennes est attendue en Algérie en janvier prochain selon l'Agence algérienne de promotion de l'investissement. Les préparatifs ont été examinés lors d'une rencontre entre le directeur général de l'AAPI et l'ambassadrice de l'Inde en Algérie. Cette visite s'inscrit dans une logique de renforcement des flux d'investissements directs étrangers, de partenariats industriels et de coopération économique bilatérale entre l'Algérie et l'Inde.
Et pour conclure, Nabila, l'économie numérique s'affirme comme un moteur de croissance et d'emploi.
Le e-commerce et le marketing digital ont été au cœur d'une rencontre nationale organisée à Alger. Les échanges ont porté sur le développement de l'économie numérique, l'innovation et l'intégration des jeunes dans ces filières. L'accent a été mis sur la formation aux compétences digitales, considérées comme un levier de compétitivité, de création d'emplois et de structuration de nouveaux modèles économiques en phase avec les mutations du marché et la transformation numérique.
C'était le journal économique avec Nabila Hussein. On continue de vous accompagner jusqu'à 19h en musique. Dans quelques instants, on reviendra avec le reste de l'actualité. Et si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans le magazine Place à l'instant santé.
Ce programme vous est présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
L'instant santé avec Hassan Chemesh.
Et pour la première fois en Algérie, la greffe du poumon devient une réalité. Face à l'augmentation du nombre de patients insuffisants respiratoires, les autorités sanitaires font appel au professeur Suilamas, expert ayant réalisé plus de 150 greffes. Hassan Chemesh l'a rencontré pour nous.
Professeur Reda Suilamas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien thoracique.
Oui.
Vous êtes le premier chirurgien algérien à avoir fait des greffes pulmonaires.
Oui, je suis chirurgien thoracique, comme vous l'avez dit, spécialisé donc dans le poumon. Et par la suite, je me suis intéressé à la greffe de poumon, à la transplantation pulmonaire.
Comment mettre en place, établir un programme de greffe pulmonaire dans notre pays?
J'aime bien la question parce que vous parlez de programme et ça me plaît beaucoup. En fait, la greffe d'organes est un programme. Ce n'est pas une activité chirurgicale ou médicale, c'est un programme multidisciplinaire qui réunit une dizaine de spécialités et beaucoup de personnes qui travaillent autour de ce programme et donc finalement autour du patient. En fait, la greffe est un problème sociétal, c'est une question de société. Pourquoi ? Parce que la greffe, c'est une histoire de solidarité entre les personnes. C'est une solidarité entre la personne qui vient de décéder, celle qui est vivante mais qui risque de décéder s'il n'y a pas d'organe pour la greffer. Et ensuite, il y a une solidarité entre tous les intervenants, médicaux, paramédicaux, une solidarité entre eux pour que cette greffe réussisse. Mais là, c'est une question de société.
Il faut d'abord convaincre la société.
La société, à mon avis, est convaincue. La société algérienne est une société moderne, quoi qu'on dise, très solidaire, mais elle est moderne, elle est généreuse et elle sait ce que c'est.
On dit dans notre religion que celui qui sauve une vie, comme s'il a sauvé toute l'humanité.
Absolument. Vous savez qu'un donneur peut sauver cette vie. On prélève, si il y a greffe d'organes, on prélève le cœur, deux poumons.
Des organes nobles.
Le foie, les deux reins, le pancréas et même la cornée et la moelle osseuse. Donc vous voyez, je ne parle même pas des greffes intestinales qui se font maintenant dans certains pays pour des maladies très très rares et très compliquées. Donc vous voyez, un donneur peut donner tout ça et sauver une dizaine de vies.
Tout le monde doit s'impliquer.
La greffe est l'affaire de tout le monde. Il n'y a pas un qui est plus impliqué que l'autre. Il faut que tous les acteurs de la société soient conscients que eux, un jour, ils sont peut-être donneurs, mais un autre jour, quelqu'un de leurs proches, leur famille, peut être receveur. C'est-à-dire, on a sauvé une vie aujourd'hui, demain, en donnant ses organes, demain, quelqu'un de notre famille pourra être sauvé par quelqu'un d'autre qui donnera ses organes.
Professeur, dites-nous, vous avez fait combien de greffes pulmonaires?
Oh, j'ai dû en faire, je pense, à la dernière statistique, c'est 150 environ.
150?
150 moi-même, double greffe des deux poumons, et j'ai aussi aider, participer dans d'autres structures où j'ai aidé des gens pendant la formation à faire des greffes.
J'imagine que c'est une intervention très complexe.
Alors, elle est très complexe, mais elle s'apprend comme tout métier, comme la chirurgie. Si vous voulez, la greffe pulmonaire vient après la chirurgie thoracique. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait beaucoup de malades, d'avoir opéré beaucoup de patients malades de cancer du poumon ou choses comme ça, pour ensuite se former à la greffe. Et ça, j'insiste, votre question est excellente. Il faut être formé, même si on est chirurgien thoracique avéré, il faut se former pour commencer à faire des greffes. Il ne faut jamais se lancer tout seul, ça ne marche pas. Et comme on dit chez nous, il faut être formé.
Professeur, aujourd'hui, vous êtes en Algérie. L'Algérie a besoin de vous. Donc, vous êtes prêt à former, à donner.
Bien sûr. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Vous allez discuter avec les autorités sanitaires en Algérie.
C'est en cours. La volonté existe, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. La volonté existe. Maintenant, il s'agit de mettre en place les choses pour qu'on puisse commencer à discuter formellement, officiellement, de comment on va agir et qui va faire quoi et sur quelle base on va travailler.
Professeur Souhaïlamas, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie.
Ce programme vous a été présenté par le groupe Saïdal.
Saïdal, science et santé.
Algéchain 3. Algéchain 3. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24.
زماني كله زماني كله زماني كله سمرم الله يهديك يا سمرة الله يهديك يا العذرة الله يهديك يا سمرة الله يهديك يا
Bonne musique pour vous accompagner avec Gada Diwan Bechar sur Alger 3. Et dans le magazine, on passe tout de suite à Zoom sur le monde.
Zoom sur le monde avec Liès Terreni.
Et depuis plus de 2 ans, le Soudan est le théâtre d'une guerre d'une rare violence qui a atteint un nouveau paroxysme avec les massacres dans la ville d'El Fasher et au Kordofan. Pourtant, ce conflit mobilise peu l'attention internationale et la diplomatie peine à trouver une issue. C'est le sujet de cet entretien réalisé par Liès Telreni.
Docteur Mouzammal Souleyman Ahmed, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivain et analyste politique. Depuis avril 2023, le Soudan est un terrain de guerre entre les paramilitaires et l'armée régulière. Comment décrivez-vous aujourd'hui la situation humanitaire au Soudan, notamment dans les régions du Darfour et du Kordofan ?
La situation au Soudan est catastrophique, en particulier dans les régions du Darfour et du Kordofan, des États qui sont sous le contrôle de groupes armés. Il est bien connu qu'environ 25 millions de personnes souffrent d'un manque de nourriture. Environ 11,5 millions d'entre elles déplacées de leur foyer, des foyers soudanais vers des pays voisins en raison de la guerre. La moitié de ces 25 millions de personnes encore présente au Soudan n'est pas en mesure d'accéder à une alimentation suffisante et décente en raison des conséquences directes du conflit. Le groupe armé exploite les conditions humanitaires et civiles. Il cible les infrastructures électriques à l'aide de drones.
Et quelles sont les principales conséquences de la guerre sur le système de santé et la vie quotidienne des civils ?
Là encore, la situation sanitaire est partiellement prise en charge grâce au volontariat, aux médicaments fabriqués par des pays frères. Mais il existe de graves pénuries concernant les médicaments vitaux, stratégiques et essentiels sur le plan humanitaire. Un nombre important de citoyens continue de solliciter leurs proches, leurs connaissances à l'étranger pour qu'ils leur envoient des médicaments, pour se protéger, pour survivre dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Selon les rapports officiels du ministère de la Santé, rapport publié qui indique que 1000 enfants sont décédés directement à cause de ces maladies depuis 2023. Des enfants et leurs familles en raison d'absence de médicaments. Il existe pas moins de 8000 cas liés à des maladies et des épidémies causées par la guerre. Des milliers de patients souffrent d'insuffisance rénale et d'autres graves maladies font face à des conditions extrêmement difficiles. Parmi les principaux défis auxquels la population soudanaise est confrontée figure la pénurie alimentaire, les problèmes de santé, l'approvisionnement en médicaments et le manque d'établissements sanitaires.
Dernière question, sur le plan militaire et politique, comment analysez-vous l'évolution du conflit et les soutiens dont bénéficient les groupes armés ?
Sur le plan militaire, les forces armées continuent de progresser face à la milice armée. Malgré l'énorme déséquilibre en matière d'armement et de renfort dont bénéficie cette milice, et avec l'appui de ses alliés, des partis à leur tête, l'entité sioniste qui renfloue les forces de soutien rapide par tous les moyens, par convoitise des richesses, des ressources et des capacités du peuple soudanais et de notre pays, le Soudan.
Merci Dr Muzammal Sulayman Ahmed d'avoir répondu à nos questions depuis Omdurman au Soudan. Je rappelle que vous êtes écrivain et analyste politique.
Zoom sur le monde avec Lies Terreni.
La suite du magazine en musique avec Roosevelt, avec Dido, White Flag.
Surrender. There we- times up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be.
Et on se retrouvera dans quelques instants pour la deuxième partie du magazine en compagnie de nos collègues avec la sportive et Nassima Djavout. On parlera de l'actualité sport et nous retrouverons Salim Brahimi en deuxième partie également pour revenir sur le dernier jour du 11e Festival National de Musique Andalouse, Sana'a. Cet événement propose chaque jour des rencontres et des débats à l'Institut National Supérieur de Musique. Il y aura également au programme de ce magazine la rubrique TIC et Média. Et c'est en compagnie de Reda Menassel, juste après le sommaire de 18h en compagnie de Sofiane Sabli. Il est 18h sur Alger Chaîne 3. On retrouve tout de suite Sofiane Saouli pour le sommaire. Bonsoir Sofiane.
Leïla Djibouel, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est au sommaire, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a signé aujourd'hui un décret présidentiel portant remise totale de la peine restante à purger au profit du détenu définitivement condamné, le nommé Ebelrit Mohamed Amine. Le président de la République a reçu le général de division Youssef Al-Hunayti, chef d'état-major interarmé des forces armées jordaniennes, porteur d'un message du souverain jordanien au chef de l'État, également reçu l'ambassadeur de la République de Corée au terme de sa mission dans le pays. Le président Abdelmadjid Tebboune qui a par ailleurs reçu le professeur Elias Zerhouni. Les décisions du président de la République prises lors du Conseil des ministres concernant l'augmentation des pensions de retraite et de la promotion de l'Alma Marnia en circonscription administrative saluées par les concernés, les citoyens, le rapport est porté souligné. Les prix des logements du programme ADL3 révélés aujourd'hui par le ministre de l'Habitat, Talha Al-Alibi, a posé la première pierre du projet de réalisation de pas moins de 20 000 logements dans la wilaya de Boumerdès. Le débat entamé à l'Assemblée populaire nationale sur le projet de nouveau code de la route présenté ce matin par le ministre de l'Intérieur et des Transports, Saïd Tiaïoun, pas moins de 190 articles pour réduire l'hécatombe routière. L'Algérie tête de file de la lutte contre le terrorisme sur notre continent à l'abri d'une réunion d'experts sur le plan africain élaborée sur la base de l'expertise algérienne, reconnue d'ailleurs à travers le monde. La situation des Razaouis s'empire face aux tentatives d'occupation sioniste de ralentir la deuxième phase de l'accord de paix, les citoyens qui sont toujours dans l'attente d'aide humanitaire nécessaire en cette période de froide que traverse la région. Et puis en sport football, dernière rencontre des 16e de finale de la Coupe d'Algérie ce soir au stade du 5 juillet. Le Wydad de Ain Belian affrontera le Chabab de Blouzdad. Et puis les Verts qui se préparent, une préparation en prévision de la CAN 2025. Le stage se déroule au centre technique de Sidi Moussa. minutes, l'heure de prendre connaissance des prévisions météo. C'est avec vous, Leïla Djibouel.
Maxwell, votre partenaire électroménager avec son radiateur à gaz Black Dragon, vous présente la météo du jour. Maxwell, for a better life.
C'est l'heure de la météo avec Gamme Assurance. Gamme Assurance, votre protection et notre engagement.
Bonsoir à toutes et à tous. Les prévisions pour cette nuit, le temps sera souvent voilé à localement nuageux sur les régions ouest, l'intérieur et les hauts plateaux, avec quelques pluies parfois orageuses, surtout sur les hauts plateaux. Une amélioration progressive est attendue en fin de soirée, avec des vents qui souffleront d'ouest à sud-ouest de 20 à 30 km, atteignant les 40 à 50 km près des côtes, avec des rafales sous orage. Et sur les régions centre et est du pays, le ciel sera également nuageux, avec des averses orageuses parfois marquées, pouvant donner localement de fortes pluies et de la grêle, notamment sur les hauts plateaux et l'est ainsi que l'intérieur, avec une accalmie prévue en fin de soirée. Sur le sud du pays, des pluies orageuses concerneront le Sahara central et oriental, le Hoggar et le Tassili, avec des vents parfois forts et quelques soulèvements de sable. Par ailleurs, le temps restera souvent voilé à partiellement dégagé. Les températures pour ce soir, il fera 11 degrés à Alger, 7 à Oran, 12 degrés à Djidjel, 4 à Betna, 5 degrés à Constantine, 8 degrés à Tlemcen et Tizi Ouzou, 9 degrés à Engzem, 10 à Ourgla, 14 degrés à Djanet et 15 degrés à Borj Beji Mokhtar.
C'était la météo avec Maxwell, votre partenaire électroménager et son radiateur à gaz Black Dragon. Maxwell, for a better life.
C'était la météo avec Gamme Assurance. Gamme Assurance, votre protection et notre engagement.
From the very beginning, we carry something unstoppable within us. Something stronger than where we learn, stronger than circumstances. An inner energy A path already written. A signature. Unfolding something that was already there. Oridu, ball for Fakci.
Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It's hard for us both. That I feel in show. Some would say I should let you go your way. You only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably
Bienvenue dans la deuxième partie du magazine pour vous accompagner avec le sport. On commence par le football avec Nessima Djaout. Bonsoir.
Bonsoir Leïla.
Comment ça va?
Mieux qu'hier, j'allais
très
presque
bien.
Dire. ça va, tout
super,
va bien.
Super, avec la sélection nationale qui entame aujourd'hui au centre technique de Sidi Moussa son dernier stage de préparation en prévision de la CAN 2025 qui débutera dans 6 jours.
Ah oui, le compte à rebours a déjà commencé. Les internationaux algériens rejoignent au fur et à mesure le centre technique de Sidi Moussa où ils vont justement entamer la toute dernière ligne droite de la préparation pour aller prendre part à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le défenseur Aïssa Mondi a été le premier à rejoindre Alger, arrivé ce matin à l'aéroport international Walid Boumediene à Alger. Dans l'après-midi, Hicham Boudaoui, Mariad Mahrez, Ben Nasser Boulbina, Houssam Aouar ont également rejoint le groupe, tandis que le reste de l'effectif est attendu dans les prochaines heures. Il faut être à l'aéroport pour attendre les joueurs qui arrivent. Et le groupe sera au complet ce soir. Au centre de Sidi Moussa, les Verts effectueront leur dernier réglage, aussi bien sur le plan physique que tactique, avant de prendre la direction du pays hôte pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est là que la sélection nationale entamera officiellement son aventure dans la phase finale de la CAN 2025. Et des joueurs qui sont au top sur le plan moral, mental également. Ben Nasser qui a marqué un but hier avec son club de Dynamo de Zagreb. C'est d'ailleurs son premier but avec son nouveau club dans le championnat croate. Également Ben Sebaini, qui n'est pas buteur, c'est pas son poste. Il a été également buteur avec Dortmund hier en Bundesliga. Et donc, voilà, donc il y a des joueurs qui arrivent en superbe forme. Et ceux qui arrivent également, comme Boulbina, donc qui arrivent de la Coupe arabe. Et justement, à noter. Et puis, sur la liste des 28 joueurs, on a noté qu'il y avait, le sélectionneur avait convoqué 10 défenseurs. 10 défenseurs, je vais vous les citer. Belghali, Ait Nouri, Attal, Dorval, Hajjam, Belaïd, Ben Sebaini, Chergui, Mandi et Tougaï. La question a été posée au sélectionneur national Vladimir Petkovic. Voici sa réponse.
Le fait d'avoir des joueurs comme ça, ça me donne la possibilité de faire aussi des changements, la capacité aussi des joueurs de changer de poste. Pour moi, ce qui est essentiel, ce sont les principes de jeu. Et après, on peut déplacer 3, 4, 5, 6 joueurs, mais à la fin, les principes restent les mêmes. Et ce qui est essentiel, c'est d'avoir la possibilité de changer pendant le match même pour résoudre des problèmes de résultats ou bien pour réagir par rapport à ce qui se passe dans le match.
Voilà, donc c'était la réponse du sélectionneur national Vladimir Petkovic par rapport à ce compartiment de jeu qui est la défense. Et c'est important, autant défendre également. Et ce qu'on a compris de la réponse de Vladimir Petkovic, c'est bien ça, le nombre de 10 défenseurs va lui donner plus de possibilités.
Miser sur les défenseurs.
Plus de, peut-être, on va le voir,
oui.
Plus de solutions. Et puis, il le dit, il y a des joueurs qui sont polyvalents également. Ben Sebaini, par exemple, il est défenseur et ça l'a pas empêché de marquer.
De marquer.
Voilà. Le départ de l'équipe algérienne est prévu vendredi 19 pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations, dont le coup d'envoi sera donné dimanche 21 décembre. L'Algérie débutera, elle, mercredi 24 décembre face au Soudan à partir de 16h. Réglez vos montres et prenez note.
Soyez au rendez-vous.
Soyez au rendez-vous. Voilà, pour résumer. Le 28 décembre, ça sera face au Burkina Faso à 18h30. Et puis le troisième match de la première phase, le premier tour, ça sera le 31 décembre, 17h, Algérie, Guinée équatoriale.
Voilà. Quoi de mieux pour passer une soirée jusqu'au 31 décembre,
ouais, pour se préparer. Après, je pense que ils ont les moyens de se qualifier au second tour. Et on va fêter deux événements en un.
Tout à fait.
La qualification de l'Algérie au second tour.
On l'espère.
Il n'est pas arrivé depuis. Oui. Alors deux éditions, les deux dernières éditions, l'Algérie n'avait pas atteint le second tour, le huitième de finale. Et donc cette fois-ci. Alors on espère.
On croise les doigts.
Voilà.
On va parler de la dernière rencontre des 16e de finale de la Coupe d'Algérie prévue ce soir au stade du 5 juillet entre le Wydad de Aïn Benyane et le Chebeb de Belouizdad.
19h, là aussi, ça sera au stade du 5 juillet, le Wydad de Aïn El Benyane, un club d'interrégion qui aura en face de lui le finaliste malheureux de la précédente édition, le Chebeb de Belouizdad. Et donc Aïn Benyane qui pourrait ce soir, en cas de victoire, pourrait être le petit poussé de cette édition. C'est vraiment David contre Goliath, hein. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Mmh. Et ça va être, on comprend bien que le Shabab de Belouizdad est avec son armada de joueurs.
C'est normal.
Et il y a un déséquilibre un peu, hein, oui. Contre une équipe de l'interrégion. Mais tout reste possible en Coupe d'Algérie.
C'est jouable.
C'est reste possible, ça peut être jouable. Et je rappelle qu'hier, l'USMA d'Alger a validé son billet pour les 8e de finale en dominant le MOC de Constantine, club de Ligue 2, de 3-0. Et je rappelle également, allez, je vais vous donner toutes les équipes qui sont pour le moment qualifiées avant le dernier match des 16e de finale. 9 clubs de la Ligue 1. Mouloudia d'Alger, USMA d'Alger, JS Saoura, Entente de Sétif, Espérance de Mostaganem, CS Constantine, l'Étoile Sportive de Ben Aknoun, le Paradou et la Sochelef. 9 équipes de Ligue 1 sont en 8e de finale. Pour la Ligue 2, il y a 5 équipes. L'USM El Harrach, le CAB, Batna, l'Azmo Doran, le Moudia Zahida et le Nasr Hussidey. Et pour le moment, une seule équipe de l'interrégion, c'est la JSM Béjaïa. Allez, je vais vous donner également les matchs des 8e de finale qui sont prévus les 15, 16 et 17 janvier prochains. Il y aura d'ailleurs des rencontres entre clubs de Ligue 1 je vais d'abord vous donner les clubs de Ligue 1. Le Paradou Athletic Club qui affrontera le Cap Batna club de Ligue 2. L'AS Sochelef affrontera également un club de Ligue 2, le Mouloudia de Saïda. L'USM Alger affrontera l'USM El Harrach. Et quel match, vraiment, c'est un derby algérois. Il y aura un match entre clubs de Ligue 1, l'US Mostaganem contre la JS Saoura et le CSC contre l'Entente de Sétif. CSC Entente de Sétif, ça aussi, c'est un big match. C'est un derby de l'Est. Il y aura également un match entre club de le Petit Poussé, voilà, l'interrégion, c'est le JSM Béjaïa qui affrontera le Nasr Hussidey. Et puis le vainqueur du match de ce soir, Aïn El Benyan, Shabab de Belouizdad, rencontrera en 8e de finale l'Azmo Doran qui évolue en Ligue 2. Et puis, j'avais omis de vous dire qu'il y avait également un match entre club de Ligue 1, Mouloudia d'Alger, Étoile Sportive de Ben Aknoun.
On passe au volleyball, Nassima, avec l'Étoile Sportive de Msila, complexe sportif Nodroma, prévu cet après-midi en ouverture de la 4e journée du championnat masculin A qui se poursuivra demain.
Oui, un match qui est en cours, hein, entre l'Étoile Sportive de Msila qui occupe la 6e place contre le complexe sportif de Nodroma, un club qui est promu, hein, qui est monté en première division cette saison, qui est également en mauvaise position, ouais, 7e, donc avec seulement 2 points. Donc les deux équipes sont à la recherche d'autres victoires. Et donc pour le moment, en tout cas, le match est en cours, donc on aura à y revenir plus tard. Cependant, eh bien, l'autre équipe de la suite de cette journée, la 4e du championnat masculin, se déroulera demain avec de belles affiches. Et il y aura notamment Wydad de Tlemcen, ASV Blida. Wydad de Tlemcen surprenant résultat, puisque Wydad de Tlemcen, auteur du doublé la saison écoulée, eh bien, se retrouve à la 4e position avec seulement 6 points. Le Wydad de Tlemcen qui accueillera demain à 18h l'AS Vublida qui partage la première place avec Messelmoun. Et sur cette rencontre, on va écouter tout d'abord l'entraîneur du Wydad de Tlemcen, Lamine Dhina. Pour lui, c'est un match de début de saison sans pression que cette équipe du Wydad va affronter l'AS Vublida.
La saison ne fait que commencer d'ailleurs et l'objectif principal d'abord c'est d'être parmi les 4 premiers, donc aucune pression, aucun stress, l'équipe continue sa préparation. Pour le match de demain, ça va être un match difficile pour les deux équipes. On essaie de mettre un peu d'ordre d'abord sur le mental des joueurs. Celui qui joue à son meilleur niveau, il gagne le match. C'est vrai que c'est une équipe à ne pas sous-estimer, ils ont ses faiblesses et ils ont leurs points forts, donc on va essayer de travailler sur ça. Le mot d'ordre c'est concentration.
Voilà, concentration, c'est les propos de l'entraîneur du Wydad de Tlemcen, l'équipe de volleyball, Lamine Dhina. Et du côté du passeur de l'équipe de l'AS Vublida, Abdelrahman Mesoud Debih, eh bien pour lui, il partage l'avis de Lamine Dhina. C'est un match de début de saison, il n'y aura pas de pression lors de cette rencontre.
J'ai signé cette année pour l'équipe de Blida et on part aujourd'hui pour notre 4e match d'affilée de début de championnat. L'équipe de Tlemcen, c'est une équipe, très bonne équipe, qui joue bien le volleyball. Tlemcen, elle a pris le doublé l'année passée et c'est un bon test pour nous, pour la suite, pour se préparer à la suite de la championnat national. J'espère qu'on va faire un bon match. C'est un match préparatoire pour la suite.
Voilà, donc c'est un match préparatoire pour la suite. Abdelrahman Mesoud Behler, l'ancien international, le passeur de Blida, qui était la saison dernière à l'OM Kalmilia et qui change d'air et qui vient et qui se rapproche d'Alger. Il est en ce moment, donc, il a été recruté par l'ASV Blida. Par ailleurs, demain, donc, Wydad de Tlemcen, ASV Blida à partir de 18h. Il y aura Mouloudia d'Alger, Pok Chlef également à 18h. Le Pok Chlef qui est troisième et le Mouloudia qui est juste derrière quatrième. Là, ça, c'est aussi un beau match. Le Sbottewa qui revient parmi l'élite qui affrontera Rayed Chabab Msila, ça sera à 17h et à 17h également, ça sera le match des extrêmes entre Messelmoun qui occupe la première place et qui se déplace chez la lanterne rouge de l'Olympique Al-Qassab, ça sera à 17h. Ça c'est pour le groupe Centre-Ouest puisqu'il y a également un autre groupe en championnat masculin de volleyball, le groupe Centre-Est avec une belle affiche demain à 18h entre Tejnant et l'OM Kalmilia. Il faut savoir que dans ce groupe, 7 équipes se partagent la première place. L'OM Kalmilia, le Nasriya Club de Béjaïa, Tejnant, Kasteltnit, Labed, Ouled Adouane, L'Elma et Fanar Aynazel. Et donc, demain, il y aura une rencontre entre deux équipes qui se partagent la première place à 18h, entre Tejnant et l'OM Kalmilia, Kasteltnit, Labed également, et Ouled Adouane, le MB Béjaïa, qui est dernier au classement, rencontrera la formation de Aïn Mlila à 17h. C'est Aïn Mlila qui occupe la 8e place. Par ailleurs, le Nasriya Club de Béjaïa, le promu qui surprend tout le monde et qui est premier également affrontera une autre équipe qui partage cette première place à l'Alma à 17h et puis à 16h30 Fanal Ain Ezzel contre l'Étoile Sportive Sétifienne. Moi j'ai bien envie de dire dommage que l'école sétifienne, l'Étoile de Sétif, est en train de souffrir. Elle occupe l'avant-dernière place avec un seul petit point. L'Étoile de Sétif qui jouait il y a quelque temps les premiers rôles, qui se trouve aujourd'hui en très très mauvaise position. On espère le grand retour de l'entente de l'Étoile de Sétif.
Et on reste avec le volleyball pour parler cette fois des élections, des sélections nationales qui ont vu un changement pour certaines et le maintien pour d'autres au niveau des staffs techniques.
Oui, alors Kamel Imloul, l'entraîneur des garçons de l'équipe nationale senior messieurs, qui a été reconduit cette semaine à la tête de l'équipe masculine. Il avait drivé le 6 Algérien lors du dernier championnat du monde aux Philippines en septembre dernier. Et d'ailleurs, tout le monde se rappelle ce match face à l'Italie. Ça reste un match référence. L'équipe algérienne a fait presque jeu égal. L'Italie qui finalement a remporté le championnat du monde aux Philippines en septembre dernier. Et donc, la nouvelle fédération a préféré maintenir Kamel Imloul puisqu'il a un contrat toujours en cours. Il y a eu également, par contre, cette fois-ci, changement à la tête de la barre technique de l'équipe nationale féminine de volleyball, l'équipe féminine senior. Sidi Ali Ben Qorbi, statisticien, est le nouveau sélectionneur national chez les dames en remplacement de Yassine Djellouli. Et nous avons posé la question au président de la Fédération algérienne de volleyball, Mohand Tamartaza, quelles ont été donc les motivations de ces changements et du maintien de Kamel Imloul. Écoutez sa réponse.
Kamel Imloul est toujours sous contrat avec la Fédération algérienne de volleyball. Donc ce n'est pas une reconduction, il doit continuer son contrat, ça d'une part. De l'autre part, on lui a donné confiance pour pouvoir mener à terme son travail qu'il a entrepris avec l'ancien bureau. Concernant les dames, nous avons pensé à un entraîneur complètement nouveau qui n'a pas d'expérience sur le plan féminin, mais c'est voulu, nous avons pris ça de l'expérience. Qui fait que la majorité des entraîneurs qui encadrent l'équipe nationale et qui ont des équipes féminines sont pour moi impartiales et subjectifs. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai préféré un entraîneur venant du masculin. Comme ça, ça va nous éviter la subjectivité que tout le monde déclare, même si dans la réalité elle n'est pas toujours justifiée, mais c'est pour éviter un petit peu que les gens se disent que cet entraîneur-là travaille pour son équipe, pas le but de l'équipe nationale, etc. C'est la raison pour laquelle nous avons donné confiance à M. Ben Qorbi. La deuxième raison, c'est que M. Ben Qorbi a toujours travaillé en adjoint dans les équipes nationales masculines comme statisticien. Donc c'est le moment de lui donner sa chance comme entraîneur-chef et j'espère qu'il fera un bon parcours.
C'était le président de la Fédération algérienne de volleyball, Mohand Tamartaza, qui revient sur le maintien de Kamel Imloul et l'arrivée chez les messieurs, Kamel Imloul, sélectionneur national des seniors garçons, et l'arrivée de Sidi Ali Ben Qorbi à la tête de la sélection féminine.
Et on termine avec une très belle discipline, l'équitation.
Ah oui.
Championnat d'Algérie de saut d'obstacle le week-end prochain à Oran.
Oui, à Oran. Le championnat d'Algérie de saut d'obstacle individuel senior se déroulera du 17 au 20 décembre courant au centre équestre Monte Cristo. Ah, j'adore Monte Cristo. Oui. Des seniors à Oran. Cette manifestation sportive organisée par quatre jours par la Fédération des sports équestres en coordination avec le club équestre Monte Cristo verra la participation de plus de 50 cavaliers et cavalières montant des chevaux âgés de 6 ans et plus représentant différents clubs à l'échelle nationale. Les deux premières journées de la compétition seront consacrées aux épreuves qualificatives disputées selon un système sans chronométrage sur les obstacles dont la hauteur variera entre 1,25 m et 1,35 m. C'est plutôt un concours à 3 étoiles. Les meilleurs cavaliers ayant enregistré le plus faible nombre de pénalités lors des premières et deuxièmes manches se qualifieront pour la finale prévue samedi prochain, samedi 20. Et en marge de ce championnat, le Grand Prix du regretté, du jeune cavalier Benchir Ayman Bekiri, champion d'Algérie de la catégorie cadette et considéré comme l'un des talents montants de l'équitation algérienne, sera également organisé ce dernier. Je le rappelle, hein, ça a été avec beaucoup de douleur qu'on a appris le décès de ce jeune cavalier. Je rappelle son nom, Ayman Bekiri Benchir, qui est décédé récemment dans un accident de la route à Constantine. Et nous présentons encore une fois
nos sincères
condoléances à sa famille. Puis un dernier mot, la Coupe Arabe FIFA 2025, Qatar 2020, FIFA 2025, on n'y est plus. Oui. On a été éliminé par les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis éliminés aujourd'hui en demi-finale.
C'est le karma.
3-0. Et à 18h30, dans moins de 4 minutes, il y aura l'autre demi-finale qui mettra aux prises, 18h30, je le rappelle, l'Arabie Saoudite à la Jordanie. Voilà.
Et voilà tout pour l'essentiel de l'actualité sportive avec Nassima Djaout. Merci, on vous retrouvera dans le journal de 19h en compagnie de Sofiane Saouli. Et nous, on continue ce magazine en musique avec Daft Punk, The Game of Love, avant de vous retrouver pour le reste de l'actualité.
Thank you.
Et on retrouve tout de suite l'actualité culturelle dans cette deuxième partie du magazine. Pour revenir sur le dernier jour du 11e Festival National de Musique Andalouse, Sanaa, cet événement propose chaque jour des rencontres et des débats à l'Institut National Supérieur de Musique. Les détails avec Selim Brahimi.
Deux thématiques ont été abordées pour l'avant-dernier jour du Festival National de Musique Andalouse. La première dédiée au rythme au Mizan Sofiane, animée par Youssef Taibia, chercheur indépendant en musique.
Une petite communication sur le rythme Sofiane, c'est-à-dire à 7 ans, et son utilisation dans le répertoire.
Alors, son origine.
Alors l'origine, les gens sont un petit peu partagés. Soit on dit que c'est une origine, une influence des musiques turques, soit c'est une influence des musiques arabes anciennes. Évidemment, mais comme c'est une musique, c'est un rythme un petit peu composé entre le 3 et le 4 qui sont des rythmes universels, on peut penser que ça a existé aussi de tout temps ici.
Après une communication très technique, nous en sommes arrivés selon votre présentation sur le fait que le Mizan Sofiane est très peu utilisé à Alger. Pourquoi cela?
Ah, on ne sait pas pourquoi, mais c'est le terrain qui le dit, c'est-à-dire nous n'avons qu'une dizaine de pièces à Alger, la même chose à Constantine et Tlemcen avec des morceaux propres. On ne peut pas expliquer cette énigme, pourquoi les gens n'ont pas composé dans cette mesure. Ça viendra peut-être.
Pourtant, Mizan Sofiane résout beaucoup de problèmes techniques quant à l'élaboration d'un rythme musical.
C'est l'identification de ce rythme qui va nous permettre de régler certains petits problèmes que rencontrent les musiciens d'Alger qui, ça fait peut-être un siècle, n'ont pas pratiqué cette structure rythmique. C'est-à-dire, en mettant la lumière sur cette mesure, on arrive à régler quelques petits problèmes de musique qu'on joue actuellement.
La deuxième conférence portée sur les textes poétiques du Zedjel au Melhoun, présentée par l'artiste, auteur et chercheur Abdelkader Bendamash.
Le Zedjel, c'est la forme poétique de Mouchah, de la musique entre guillemets andalouse, c'est-à-dire la musique classique algérienne, c'est comme ça que je l'appelle, elle a dite savante, dite andalouse. Alors, ce Zedjel est arrivé en Algérie à peu près au 16e siècle, où il s'est installé définitivement, et à partir de là, il rencontre depuis déjà le 13e, 14e siècle, il rencontre une forme poétique en Algérie.
C'est Abdelmalek ibn Khaznam qui l'a introduit.
Au 10e et 11e siècle. Donc c'était à Cordoue qu'il a fait ça. En même temps, ce genre poétique s'est propagé en Algérie pour dire que c'était le Maghreb central. Mbed, il rencontre en Algérie le Zedjel Sofi qui était religieux, le Qasida Zedjelia qui est la poésie Zedjelia qui était produite par Sidi Boumdine El Ghout, tout ça au 12e et au 13e siècle. Et ensuite, ensuite...
Il a mué.
Oui, il a continué un peu son petit bonhomme de chemin. Arrivé à Haroud al-Balad, qui nous est rappelé par Abdelrahman ibn Khaldoun, et il nous dit voilà qu'il y a Haroud al-Balad. Donc Haroud al-Balad, plus ce qu'a apporté Ibn Khalouf au XVIe siècle, ce qu'ont apporté Sidi Boumdine avec le Jal Sofi et toute la poésie religieuse, ça a fait Sidi Khadr Ibn Khalouf et ça a fait le Melhoun. Et puis il y a eu plusieurs appellations. C'est pas du jour au lendemain qu'on a créé le Melhoun. Donc ça s'est passé au bout d'un siècle ou deux pour devenir le Melhoun. Alors le Melhoun, c'était une critique négative des gens qui défendaient la langue arabe classique, qu'il fallait pas la toucher parce que l'Arab al-Balad ou le Melhoun s'est dit en arabe populaire. Donc voilà toute cette contradiction qu'il y a dans la littérature populaire aujourd'hui. Et c'est définitivement le Melhoun s'est installé comme ça, comme un genre poétique aujourd'hui qu'on peut trouver au niveau national. Et c'est une sorte d'emblème de littérature populaire algérienne.
Cette rencontre a réuni les étudiants de l'INSM qui en sortent enrichis et ils le disent.
C'est de toute façon, on a déjà donc un des cours. Nous avons été comme ça à Bzah parce que nous avons beaucoup de questions positives. Ou d'abonnés, on a dit Barakallahu fikoum.
Vous êtes étudiant dans quel domaine?
Musicologie. À l'INSM, oui.
Et vous, alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu?
C'était intéressant, très intéressant. Et c'était intéressant, le monde Mouel, comme un Mouel. Aujourd'hui, ils ont parlé à l'Zajl ou Chal Menhoun, mode Sofiane.
Et vous êtes étudiante en quoi?
En musicologie, spécialité et violoncelle.
La soirée de clôture du 11e Festival National de Musique Andalouse est prévue ce soir au Palais de la Culture Mofdi Zakaria d'Alger.
C'était l'actualité culturelle avec Selim Brahimi. On continue de vous accompagner en musique.
نار جمار الحب شعلة بالضحى في وسط مهجتي ماليها تحويل برياح تهان شعلة ما تطفيها بحور ومطارها طيلة تركتني بالهيب حرها سهي فاهي عاد نص بردو ننسي من ميل روحي من الفراق دهلة وذاتيك الخيال ولا تنحيلة قولوا لغزالي تايها روفي روفي لاش تشفى عفي على الخليل ملك على الغصان جفلة يشهلت العيون بودي تفضيلة
عم بدن طمع العقل بوصلك وانقل لي احتابك شفال عليك ويفرق صدري ويبتلع وانجل في مجرى القسم عليلة
سألت طبيبة هل الغرام اشي برد ناري واشي برد سميل عليل من مرض المحنة الهيلة انظروا لي وشوف لي في الفاض جليلة قال لي عن ذلك يا عشيق اشرب كيسين تجلبها شمس الكليل وقطع بالشفال معسلة وتمشق من ورد الخدود حفيلة قولوا لغزالي تايها روفي لاش تجفى عفي على الخدين ملك على الغصان جفلة يا شهلت العيون بوديت فضيلة
عما بدك طمع العقل بوصلك وانقل لي احتابك شفال عليك ويفرق صدري ويمتلع وانجل في مجرى القسم عليلة
زدت النار قلت ليه بكلامك هذا العلاج ما نوجد ليه سبيل أمولاتي يا صاح جفلة أش من حكمة طرف ليه من حيلة عليك بعها بالمساعفة وتعلق بوصاي للصبر والرقة والتمهيل حتى تظفر بالمواصلة وتنن خدودها عكريت قبيلة قولوا لغزالي تايها روفي لاش تجفى عفي على الخدين عما
الملك على الخصال الجفلة يا شهلة العيون بوتي تفضيلة
عمرت تنطم على قلب بوصلك بوصلك ونقول لهتابك شفال عليه ويفرق صدري ويمتلع وانجل وانجل في منظر باسم عليلة
عيب عليك انتي مهنية مسرورة في غاية الزهو أنا في تهويل خليتي ذاتي مهولة من طبيعك يا الصورة الجميلة أما نبات نقمع العقل بوصلك ونقول ليه دابت شفال عليل ويفرق صدري ويمتلع ونجل في مجرى قسم عليلة قولوا لغزالي تايها وفي روفي لاش تجفع في عالخليل ملك عالغصان جفلة يا شهلة العيون بوتي تفضيلة
عمرت تنطم على قلب بوصلك بوصلك ونقول له تابت شفال عليل ويفرق صدري ويمتلع وانجل وانجل في مجرى القسم عليلة عمرت تنطم على قلب بوصلك بوصلك ونقول له تابت شفال عليل ويفرق صدري ويمتلع وانجل وانجل في مجرى القسم عليلة عمرت تنطم على قلب بوصلك بوصلك ونقول له تابت شفال عليل ويفرق صدري
Place à la dernière rubrique de cette deuxième partie du magazine TIC et médias. Reda Menassel s'intéresse à la bataille judiciaire qui fait rage autour des géants du web au cœur du procès. La question cruciale de qui gouverne réellement ces plateformes entre régulation étatique, influence des multinationales et protection des utilisateurs. Une lutte qui pourrait redéfinir l'équilibre du pouvoir numérique à l'échelle mondiale.
Depuis mai 2025, le climat s'est durci entre Washington et les géants du numérique. Le département de la justice a ouvert plusieurs procédures antitrust contre Google, Meta et Amazon, accusés de verrouiller la concurrence dans la publicité en ligne, le cloud ou encore les moteurs de recherche. C'est l'un des plus vastes ensembles de poursuites depuis l'affaire Microsoft à la fin des années 90. L'enjeu est immense. Il ne s'agit pas seulement d'économie, mais de souveraineté numérique et de modèle de société. Les géants du web, en intégrant des services entiers de la publicité au paiement en passant par l'hébergement de contenu, concentre en fait une puissance qui dépasse celle de nombreux États. Selon la Federal Trade Commission, cette domination freine l'innovation et empêche l'émergence de nouveaux acteurs. Mais le débat n'est pas si manichéen. Ces plateformes permettent aussi l'essor de milliers d'entreprises et d'emplois dans le numérique. Démanteler ou fragmenter leurs activités risquerait de fragiliser l'écosystème tout entier. Donc la question à $1 million est la suivante. Faut-il brider la taille ou les pratiques? Peut-on encore contrôler des algorithmes opaques qui organisent nos choix quotidiens? Cette vague antitrust ouvre en fait un tournant social et sociétal important, celui de la régulation algorithmique. Derrière cette bataille judiciaire se joue la question la plus politique et décisive de l'ère numérique. Qui gouverne les plateformes où nous vivons désormais une part de notre vie? À très vite.
C'était la rubrique TIC et médias avec Reda Menassel, la suite du magazine en musique avec The Verve, Lucky Man.
something in my liberty on my mind. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my fever growing. I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hands. Happiness, something in my own place. I'm steady naked, smiling, I feel no disgrace. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. Watch my people go.
Algechin 3, 24 heures sur 24.
It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. About you now. And all the
the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves.
La fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. On se retrouvera demain avec d'autres actualités, même heure, même station.
Think of younger days when I lived for my life. Was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. And how can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? Tell me how. Can you stop the sun shining? What makes the world go round? And how can you mend this broken man? Can a loser ever win? Somebody,
yeah.
help me, me.
My broken heart.
And let me live again. La 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 la. I can still feel the breeze that rustles through the trees. And misty memories of days gone by. But we could never see tomorrow. Would you believe that no one, no one ever told us about the sorrow? So can you stop the rain from falling out? How can you stop the that old sun from shining? What makes the world go round? And sometime I have to say, say, I just wanna live again, baby. How can you mend this broken man? Yeah. Somebody tell me, how can a loser ever win? Baby, I'm gonna say, baby, help me mend my this old broken heart. I thank God. I feel like I wanna live again. How can you mend this broken heart? Somebody please tell me, how can you stop the rain from falling down? Although my clothes are wet, tell me.